Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude en présence de Charles Gave. Bonjour Charles.
Et bonjour.
Et le pull qui fait fureur.
Oui, mais je sais que tout le monde se moque de ce pull, mais il est très bien ce pull.
Non, mais les gens se moquent pas vraiment, au fond ils l'adorent. Donc
bon.
C'est comme les chaussettes. Ouais. Et alors pour détendre l'atmosphère, dès le début, je voudrais parler de ce qui se passe avec Israël.
Ciel, on est mal barré là.
Oui, on est mal barré.
Avec on va ramasser des claques là.
Ouais, non, mais c'est. En fait, j'ai un questionnement assez global parce que c'est une question très compliquée qui ne sera jamais tranchée. C'est finalement jusqu'où la guerre est-elle légitime? C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait la légitimité d'Israël à chercher à détruire une organisation, en l'occurrence le Hezbollah, qui cherche la destruction d'Israël. En revanche, derrière, c'est quels moyens sont légitimes à utiliser pour détruire cette organisation?
C'est très, une question très difficile. C'est,
ouais.
Alors, on va essayer de raisonner en utilisant le logos et l'éthos et pas le pathos. Hein. On va partir d'un point sur lequel je pense tout le monde est d'accord, c'est que la guerre, c'est très mal.
Oui.
D'accord ? Et que ça fait des victimes innocentes. Bon. On est tous d'accord là-dessus. Bon. Donc, on va aller un pas plus loin et on va dire... Très bien. Qui a commencé cette guerre-là? Bon, bah, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui a commencé la guerre, et le lendemain du jour où le Hamas a fait son pogrom là-bas, où ils ont tué 1200 Israéliens et pris 150 otages, qu'ils n'ont toujours pas libérés d'ailleurs. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le Hezbollah s'est mis à tirer de missiles, etc. Donc, et alors les gens me disent, oui, mais l'État d'Israël est illégitime puisqu'il a pris la terre des Arabes.
Ouais.
Donc ça n'était qu'une...
C'est-à-dire que la causalité première, en fait, remonte encore avant. C'est toujours. C'est toujours. On cherche à savoir qui c'est qui a commencé.
Qui c'est qui a commencé, ce qui est d'ailleurs une recherche assez futile.
Oui.
Mais si je regarde un peu l'histoire de l'humanité, des gens qui se sont fait virer de leur terre, vous pouvez penser les Indiens d'Amérique.
Il y en a un petit paquet, oui.
Vous pouvez penser, je sais pas, tous les Grecs en Asie mineure.
Mm-hmm.
Qui étaient là depuis 3000, 4000 ans et qui se sont fait virer par les Turcs, il n'en reste plus un. Vous pouvez penser les Juifs qui étaient à Bagdad, à Alep, puisqu'à Alep c'était l'endroit où il y avait la plus vieille Bible du monde, dans la synagogue, etc. Et qui se sont fait virer aussi comme des malpropres, au Caire, partout. Donc, si on devait commencer à remonter à celui qui a conquis et qui a fait du tort à celui qui a été conquis, bah, je sais pas, vous avez les Berbères en Afrique du Nord qui ont été conquis par les Arabes, et bon, les Berbères, tous les chauffeurs de taxi que je prends à Paris sont des Berbères.
Et oui, moi aussi j'ai la même expérience.
En général, ils sont pas d'une amitié folle pour les Arabes. Donc, remonter à la conquête, c'est un truc intéressant, mais enfin, ça nous amène pas à grand-chose.
Hein. Oui.
Donc, si on retourne maintenant à Logos et à l'État, on dit donc Israël est un État qui a été établi par le droit international des Nations Unies. Il y a eu des guerres pour essayer de renverser cette décision. Ces guerres ont été perdues par les pays arabes.
Oui.
Ben, vae victis, hein, c'est bien triste, mais c'est comme ça, ma pauvre dame. Donc la première question, c'est est-ce que le truc de s'appartenait aux Palestiniens avant. D'abord, c'est pas prouvé historiquement parce qu'il y a toujours eu des Juifs à Jérusalem. Hein. Ils n'ont jamais été, ils n'ont pas toujours été majoritaires, mais il y a toujours eu des Juifs à Jérusalem. Donc, c'était une terre qui est disputée. Ça s'est réglé par les armes. Bon. Donc, je crois que cette première tentative de mettre la faute sur quelqu'un. Ça nous amènerait à des guerres partout dans le monde, quoi, parce que c'est on n'est pas rendu. Si ça commence comme ça, vous voyez, on n'est pas rendu, quoi.
Oui.
Vous pouvez aller en Australie aussi avec les. Vous pouvez d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks. Enfin, je veux dire, C'est on est mal parti, quoi. Alors, bien sûr, chacun sait que le seul qui a fait des conquêtes militaires et qui a créé de l'esclavagisme, c'était l'homme blanc. Mais enfin, ça, c'est peut-être ce que croient quelques crétins à l'Assemblée nationale qui ont été élus au LFI. Mais enfin, une petite lecture rapide de l'histoire vous montre que c'est une grosse bêtise. Mmh. Donc, je crois pas que ce soit un argument qui soit bien intéressant à défendre. Parce que les conséquences sur le reste du monde...
Oui.
Je veux dire, si c'était un précédent qu'on a le droit de virer les mecs qui sont arrivés il y a 500 ans, ou il y a 400 ans, ou il y a 300, par exemple, Sainte-Sophie...
Oui, ce serait pas une mosquée.
Ce serait pas une mosquée, hein. C'est bien triste à dire, ma pauvre dame, mais voilà, donc il y a des trucs comme ça qui sont un petit peu délicats, quoi.
Bien sûr, et puis à chaque fois, ce serait toujours assez arbitraire de dire à telle date, nous étions...
Et depuis quand voilà.
Depuis quand?
Depuis quand voilà. Mais combien de temps doit-on être quelque part pour que ça vous appartienne vraiment?
Voilà, oui, tout à fait.
Donc, et qui décide de... Bref.
Qui décide de la légitimité de la Terre.
Voilà, par exemple, les Apaches étaient des très bons guerriers... Et les Comanches encore plus, donc les Comanches sont arrivés après, massacrer les Apaches. Donc, bon, quand les Américains ont massacré les deux, on va chercher les descendants des Apaches ou des Comanches?
C'est
du grand n'importe quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un argument qui, du point de vue du logos, de la logique, ne veut rien dire. Qui est complètement irrecevable. Maintenant, peut-être les gens veulent parce qu'ils veulent, trouver que les Palestiniens doivent être là-bas, mais ça, bon. Alors, le deuxième argument, c'est de dire il y a des victimes innocentes. Tiens, il y a l'autre qui ronfle. Et le deuxième argument, c'est de dire qu'il y a des victimes innocentes. Alors là, je vais faire une annonce aussi qui va surprendre des gens par son originalité. Les guerres, ça fait des victimes collatérales.
Oui.
Bon. Alors, on sait que dans tous les conflits, quand vous êtes en guerre dans une population, en particulier dans les conflits qui ont lieu dans des endroits urbanisés, il y a à peu près, d'après tous les calculs qui ont été faits par les gens qui connaissent quelque chose et qui s'intéressent à ce genre de sujet, une victime militaire et 9 victimes civiles. Mmh. Il y a un ratio de 1 à 9. Entre eux, il y en a un qui est tué parce que il est un soldat, puis 8 qui sont tués parce qu'il était là par hasard, quoi.
Ouais.
Bien, aujourd'hui, en Israël, en Gaza, là, on voit qu'il y a à peu près une victime militaire pour 2 victimes civiles.
Oui, donc c'est relativement peu comme dégâts.
Donc on ne peut pas dire qu'ils cherchent à massacrer, qu'ils cherchent à faire un génocide.
Ouais.
Ils cherchent à nettoyer le Hamas. Oui, ça c'est tout à fait exact. On ne peut pas leur en vouloir. Et c'est d'autant plus étonnant que le Hamas avait mis tous ses points de commande en dessous des hôpitaux, des écoles, etc., pour que justement...
Oui, pour justement favoriser le fait qu'il fasse du dégât
collatéral. Et qu'il fasse des dégâts, qu'il fasse des victimes collatérales, et que la communauté internationale...
Israël,
etc. Donc...
D'ailleurs, bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, Israël prévient en avance évacuer un maximum de victimes collatérales possibles.
C'est pour ça qu'ils ont que 2 victimes à la place de 9.
Voilà.
Bon, je dis pas que la guerre c'est une bonne chose, mais je dis, en tout cas, il y a eu relativement peu de victimes par rapport.
Il y a eu un effort de minimisation, malgré tout, du nombre de victimes collatérales par Israël.
Voilà. Et quand le père du président syrien Assad avait liqué Homs,
ouais,
qui est une ville en Syrie. Il avait fait 30 000 victimes dans la population civile,
ouais,
qu'il avait massacré tout le monde parce que c'était des sunnites, eux c'était des alaouites, et personne n'a rien dit.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, dans la série Invasion et massacre des populations civiles, au Soudan, il y a les musulmans qui sont en train de rentrer dans les populations noires qui étaient les propriétaire original de la terre, et qui les massacre avec un bel enthousiasme, et personne n'aurait dit un mot.
Oui. Mais c'est vrai qu'on entend très très peu parler du Soudan.
Il y a beaucoup plus de victimes qu'à Gaza. Hein, Et donc vous dites, bon, c'est que peut-être il y a un intérêt à la chose. Je ne sais pas si c'est parce que là-bas ce sont des juifs ou parce que ce sont des blancs.
Oui.
Il y a cette espèce de hantise de l'homme blanc qui a tout détruit, etc. Donc, vous avez des gens qui, à mon avis, n'ont pas une capacité de réflexion très forte.
Oui.
Et dans la mesure où un blanc se défend, c'est lui qui attaque.
Oui, alors effectivement, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des drames dans le monde, il y en a toujours eu, voilà. Plus on est nombreux, plus il y a de drames même, en termes de nombre.
Et puis tous les Pakistanais qu'on a, pas tous les Afghans, que ils ont envoyé 2 millions d'Afghans pendant l'hiver dans les montagnes de l'Afghanistan, je sais pas combien sont morts, tout le monde s'en
fout. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on s'intéresse quand même pour savoir si c'est vraiment intéressant, on s'intéresse pas tellement au fait en tant que tel, mais on s'intéresse soit à la victime, soit à qui est l'agresseur ou l'agresseur présumé, soit les deux en même temps. Et en l'occurrence, c'est vrai que d'un côté, la figure du Palestinien, c'est une figure assez récurrente dans l'histoire du tiers-mondisme. Ça date pas d'il y a un an. Hein, c'est quand même dans tout le XXe siècle. La figure du Palestinien, ça parle à beaucoup de gens, alors que la figure du Soudanais ou de l'Afghan, un peu moins. Et d'un autre côté, il y a aussi la figure en tant que, cette fois-ci plus d'agresseur, du juif, de l'israélien, soit en tant que juif, soit en tant que blanc, c'est-à-dire que il y en a qui disent qu'ils appartiennent finalement au même groupe, c'est-à-dire en fait une sorte de groupe de dominants. Ça c'est dans l'analyse un peu néo-marxiste, woke, c'est-à-dire que comme ils réussissent dans la société, ils sont dans le même groupe finalement.
Ils sont dans le même groupe. Alors, donc maintenant le troisième point, c'est de passer au droit international, où il y a ce qu'on appelle le droit de poursuite. C'est quelque chose qui est très connu dans le droit international. Mmh. C'est-à-dire que si vous vous faites attaquer par des gens qui sont à l'extérieur de vos frontières, à l'intérieur de vos frontières, à ce moment-là, vous avez le droit d'aller attaquer le pays d'à côté qui vous a attaqué.
Oui.
C'est le droit de suite.
Il y a une certaine logique.
Il y a une certaine logique. Donc, on essaye de comparer. On dit, vous vous souvenez de 9-11, il y avait eu 3600 morts, je crois, à l'époque, qui était le plus grand désastre qui s'était passé sur le sol américain. Et si vous rapportez, là, en Israël, il y en a 1200.
Oui.
Mais si vous rapportez les 3200 à la taille de la population, c'est comme si les Israéliens avaient eu à peu près 200 000 morts, quoi.
Oui.
Par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire, après les 3000.
Ouais, c'est Israël, c'est quoi, 9 millions d'habitants, quelque chose comme ça.
9 millions d'habitants contre 350 ou 400. Contre,
quoi. Ouais, c'est ça.
Donc, vous faites un ratio. Et donc, si les Américains avaient été attaqués par le Mexique, et que le Mexique avait fait la première attaque de 200, 250 000 morts, il resterait pas grand chose du Mexique aujourd'hui, quoi. C'est,
ou
du Canada d'ailleurs.
Oui.
Enfin, j'imagine pas les Canadiens attaquant les États-Unis, mais on sait jamais, quoi. Ouais, ce que je veux dire, c'est. Donc, il faut voir la proportionnalité. Et donc, le droit d'Israël d'attaquer géographiquement ceux qui ont commis, c'est reconnu par toutes les instances internationales.
Ouais.
Ça s'appelle, donc, qu'ils essayent de liquider le Hamas à Gaza. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui pourrait accepter qu'on tue 1200 ou je ne sais plus combien de sa population et qui ne réagirait pas militairement. Donc ça aussi, c'est pas vraiment recevable. Alors, on regarde ça et on se dit, bon, le quatrième élément qu'il faut essayer de comprendre, c'est que, comme je l'ai dit au début, cette guerre a été déclenchée par une offensive du Hamas, avec rapidement le soutien de Hezbollah, et donc le soutien de l'Iran. Mmh. Puisque, alors si vous acceptez que cette guerre a été déclenchée, à partir du moment où Israël répond, ben, vous ne pouvez pas dire... Il faut qu'Israël s'arrête. Parce que c'est pas bien, parce qu'il y a des enfants, ou etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui déclare la guerre, qui commence à perdre, et qui commence à dire pousse, on arrête, c'est le feu, non, c'est pas comme ça que ça marche.
Ouais.
Et c'est-à-dire que ça fait à peu près 3-4-5 fois qu'on arrête Israël pendant qu'il était en train d'essayer de nettoyer ses ennemis, et à chaque fois, il recommence. Donc on peut pas en vouloir à Israël de dire cette fois-ci je vais nettoyer jusqu'au bout.
Oui. C'est-à-dire que dans le discours international, en quelque sorte, Israël souffre de son statut de supériorité. C'est-à-dire que on en viendrait presque à lui reprocher finalement, quel que soit le nombre de missiles que lui envoie le Hezbollah ou l'Iran directement, on reproche presque à Israël le fait que ça fasse assez peu de victimes, parce que forcément, bah, avec la précision et l'efficacité de leur dôme de fer, ça fait relativement peu de victimes, alors que quand Israël réplique, là, ça fait vraiment beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de victimes. Et finalement, on en viendrait presque, oui, à leur reprocher, en fait, cette supériorité technologique et militaire.
Militaire. Mais en même temps, celui qui a commencé la guerre doit en payer le prix, si vous voulez. On n'a pas arrêté la guerre en Allemagne en laissant Göring au pouvoir, en laissant tous ces gars-là, Hitler et tout. On les a liquidés. Plutôt deux fois qu'une. Il y a même eu des procès, etc. Donc quand je regarde tout ça avec l'œil dépassionné de l'observateur international qui n'a pas d'intérêt ni d'un côté ni de l'autre, je me dis, bon, maintenant, la question c'est, est-ce qu'Israël va aller au cœur de ceux qui veulent le détruire depuis Roménie? Vous lisez les déclarations de la République islamique d'Iran, et vous voyez que depuis 40 ans ou 50 ans, ils disent que leur but essentiel dans l'existence, c'est de détruire l'État d'Israël. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, il est évident que il y a quelque chose de complètement irrationnel chez les Iraniens, qui sont pourtant un peuple très, très convenable, avec cette haine du juif, quoi. C'est quand même, c'est de nature bizarre, quoi. C'est, il y a quelque chose, ils sont d'un antisémitisme qui dépasse l'entendement, quoi. Comme le disait le grand, comme m'avait dit le grand rabbin d'Israël, de Grande-Bretagne en Angleterre, il m'avait dit, qu'est-ce que c'est que d'être antisémite, c'est de détester les juifs puisqu'il est normal. Je m'étais poilé, je m'étais dit quand même, ils sont poilants celui-là. Donc l'Iran, il déteste Israël plus qu'il n'est normal. Quoi,
on peut être d'accord là-dessus.
C'est pas, ils ont quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête. Quoi. En fait, en termes clairs, c'est des fous. Quoi.
Ouais.
C'est des fous, c'est des millénaristes, c'est des fous. Bon, alors maintenant, est-ce qu'Israël va aller jusqu'au bout et essayer d'éradiquer complètement ce pouvoir israélien qui est fou, iranien qui est fou? Ce qui voudrait dire qu'il libérerait probablement le peuple iranien, qui est sous la... Ouais. C'est quand même un des pays où on tue le plus, les opposants,
sûr.
Etc.
Bien
Donc, alors, M. Mélenchon saute partout de rage et tout, mais... Ou M. Villepin.
Oui.
Mais si vous voulez, on se demande toujours qui les paye.
Oui, Villepin, il y a des sacrées rumeurs hein, sur lui, par rapport au Qatar notamment.
Donc si vous voulez, il y a des tas de gens. Et ce qui m'embête beaucoup avec Mélenchon et Villepin, c'est qu'ils font appel simplement au pathos.
Oui.
C'est-à-dire, ils sanglotent sur les petits-enfants qui sont tués. Mais ils ont assez peu sangloté sur les 1200 qui avaient été tués, dont un paquet d'enfants, quoi.
Ouais.
Donc, je regarde ça, je me dis, bon... Et alors maintenant, je regarde le monde arabe, pas perse, arabe, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, par exemple, le Liban, que j'aime tendrement, a été détruit par le Hamas. Et par le Hezbollah, ouais. Surtout le Hezbollah.
Ouais. C'est-à-dire que le Hezbollah est au pouvoir, hein, c'est un parti politique.
Politique, ils empêchent toutes les élections du président de la République, etc. Donc c'est un État dans l'État, et c'est une organisation qui a détruit le Liban, qui l'a complètement détruit, le Liban multiconfessionnel, où il y avait le président de la République qui était chrétien, le premier ministre qui était sunnite, et le troisième qui était chiite, là. Je sais plus ce qu'il était d'ailleurs, le troisième, mais le président de la Chambre. Et donc, les Libanais, les Palestiniens sont arrivés en 1973, parce qu'ils se faisaient massacrer par le roi de Jordanie qu'ils avaient essayé de renverser, et ils ont foutu complètement en l'air le Liban. Et maintenant vous allez voir la quasi-totalité des pays arabes, par exemple l'Égypte, qui a une porte de sortie de Gaza vers l'Égypte.
Ouais.
Ils acceptent pas un Palestinien.
Non, absolument pas.
Les Saoudiens, ils disent pas, venez chez nous, on a de la place.
Ouais.
Les Irakiens, pas plus. Donc, vous pouvez pas vous empêcher de penser que accueillir les Palestiniens qui foutent le bordel dès qu'ils arrivent, avec des subventions qui arrivent de l'Iran, qui ne sont pas des Arabes, ça a l'air d'enthousiasmer assez peu les gouvernements sunnites.
Oui. Oui, la plupart des gouvernements musulmans qui soutiennent les Palestiniens, ce sont pas des frontaliers
de la Palestine. Non, ils sont loin.
Voilà, ça va être l'Algérie, ça va être plus des pays comme ça qui savent qu'ils n'auront pas de réfugiés palestiniens.
Voilà. Et bon, alors, mais vous avez des tas de pays qui ont signé des accords, le Maroc, je crois, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., avec Israël, et pour l'instant ces accords ont été gelés, mais pas annulés, si vous voulez. On en reste là, quoi. Et le grand espoir du Moyen-Orient, depuis la première présidence de M. Trump, peut-être ils vont en avoir une deuxième, on va voir, c'était les accords d'Abraham, qui était qu'on réussisse à se mettre d'accord et que, quelque part, le monde musulman accepte la présence d'Israël au Moyen-Orient.
Oui.
Et je peux pas m'empêcher de penser que cet accord d'Abraham, c'était, dans le fond, la fin du rêve iranien de détruire Israël, quoi. Parce qu'à ce moment-là, c'était fini, il pouvait plus. Donc, je trouve que cette attaque sur Israël arrive au bon moment.
Oui.
Pour les Iraniens. Et donc, quiconque s'intéresse aux accords d'Abraham pour pacifier la région, que le commerce, etc., le doux commerce, comme disait Montesquieu, que le commerce puisse se passer, que ça devienne un pays normal, qu'il ne soit pas sans arrêt en guerre, etc. Et ça, c'est les Iraniens qui l'ont empêché en déclenchant tout ça.
Ouais.
Donc je me dis, ben, ceux qui l'ont commencé, c'est Hamas. Ceux qui le continuent,
c'est le Hezbollah.
C'est le Hezbollah, et ceux qui payent, c'est les Iraniens.
Oui.
Pour empêcher que la région revienne à l'ordre normal.
Oui.
Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il me semble que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de compassion. Mais moi, j'aimerais bien que le Liban devienne un pays normal.
Oui.
Mais que les citoyens Libanais qui sont arrivés comme Palestiniens il y a une ou deux générations, se mettent à accepter le régime démocratique libanais qu'ils ont foutu en l'air.
Ouais.
Et alors, plus, ils ont tué quelque chose d'un Français, quelque chose d'un Américain.
Oui.
Donc, il faut se souvenir.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi une certaine comparaison aussi qui me marque, c'est la comparaison entre les propos de Khamenei en Iran et ceux de Netanyahou. C'est-à-dire que, alors Netanyahou, alors je ne sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est en quelque sorte Joe Biden ou ceux qui dirigent Joe Biden lui ont fixé des limites, mais Netanyahou a déclaré que pour le moment Israël n'attaquerait que des infrastructures militaires.
Enfin, c'est des rumeurs.
C'est des rumeurs, effectivement.
C'est des rumeurs, parce que quand vous êtes en état de guerre, vous pouvez faire une rumeur que vous n'allez pas attaquer les ports.
Oui.
Et puis ensuite vous le rasez, quoi.
Oui.
C'est les avions qui sont trompés.
C'est sûr, on verra les faits.
On verra les faits. On essaye, les Américains essayent de Biden, parce que Obama et donc Biden ont suivi une politique pro-iranienne extraordinaire pendant les années Obama. Ils avaient même de livrer 4 milliards de dollars en cash à l'Iran, qui était, je ne sais plus combien, de Boeing 747, qui était bourré de billets, qui était parti là-bas. Donc, j'ai la plus grande sympathie pour la Perse, qui est un pays au poil, qui existe depuis 2000 ou 3000 ans, qui est une vraie civilisation. Mais je peux pas penser que cette espèce de régime imbécile
des
mollahs est à la fois démocratique et il tue les gens comme des lapins. Hein,
ouais.
Donc, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gens exécutés que depuis un an en Iran. Donc, là aussi, on les compte assez peu, ceux-là.
Mm-hmm. Oui, et puis il y a eu des tentatives, quand même, de
Les gens sont dans la rue tout le temps.
Oui, hein. les gens sont dans la rue, notamment la jeunesse iranienne.
Et les femmes.
Oui, les femmes.
Les femmes, c'est ouais. Jamais. Donc.
Et puis, il n'aura échappé à personne que d'ici une vingtaine de jours, il y aura une élection aux États-Unis. Et que Donald Trump, je pense, donnera pas autant de limites.
D'abord et ensuite, lui, ce qu'il va chercher, c'est à continuer sa politique des accords d'Abraham.
Oui, bien sûr.
Alors que la diplomatie américaine, démocrate, ne voulait pas entériner le grand succès de Trump dans le domaine diplomatique, qui était justement ces accords d'Abraham.
Ouais.
Donc là aussi, il va peut-être y avoir un petit peu de nettoyage qui va se passer, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc, je ne prends pas parti, mais j'essaye simplement de donner les faits aux gens pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes sans tomber dans un pathos délirant.
Oui, oui, c'est sûr que je comprends tout à fait le pathos. On est des êtres humains, on a des émotions, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de raisonnement, ne faire que avec le pathos, ça me semble un petit peu limité.
Ah ben, vous faites que des conneries.
Voilà. Donc sujet suivant, on va parler d'Elon Musk un peu parce que Elon Musk il a eu une grosse semaine. Il a déjà eu une petite apparition en Pennsylvanie avec Donald Trump à son meeting, donc ça c'était quand même assez important. Ouais. C'était la première fois qu'il prenait autant position, c'est-à-dire que ça faisait quand même quelques années qu'on devinait qu'il était de plus en plus à droite.
Mais il était il avait voté démocrate toute sa vie, sa famille aussi, c'est des démocrates, ils sont d'origine américaine. Bon, ils arrivent d'Afrique du Sud, mais ils avaient un grand-père américain et c'était toujours des gens de droite. Enfin de gauche, pardon. Et puis il est devenu complètement pro-républicain quand le Parti républicain est devenu le seul défenseur de la liberté d'expression.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est rendu compte que le Parti démocrate n'avait qu'une idée, c'est d'empêcher ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui de parler ou d'être répertoriés par les agences comme les GAFA, là. Ben, il a dit non, non. Lui, il le fait en fonction d'une position de principe, c'est que la liberté de parole ne peut pas être soumise au contrôle d'un État.
Tout à fait. Et la première fois selon lui, en tout cas, selon ce qu'il nous dit, la première fois qu'il a voté pour les Républicains, c'était au midterms de 2022.
Oui.
Voilà. Avant, il aurait soit pas voté, soit toujours voté pour les démocrates. Donc voilà, il y a eu un gros shift quand même dans sa philosophie. Et donc, il a eu ce petit meeting en Pennsylvanie avec Donald Trump.
Et ce qu'il dit, qui est très intéressant, je m'excuse de vous interrompre, ce qu'il dit, c'est que moi, j'ai pas changé. C'est les démocrates qui ont changé.
Oui.
C'est-à-dire, les démocrates sont devenus un parti totalitaire.
Oui.
Et donc, lui, il a dit, bon, mais moi, c'est pas mon parti démocrate. Et c'est exactement ce que dit Kennedy aussi.
Oui. Oui. Alors, je pense, malgré tout, je pense que Musk a quand même un petit peu changé dans sa psyché. Mais effectivement, il a été aidé, en quelque sorte, un peu poussé aussi vers l'autre bord par des gens qui sont devenus complètement fous de l'autre côté.
De contrôle. Ils veulent contrôler.
Oui, absolument.
Et donc, et en même temps, vous voyez que tous ces outils de contrôle, en particulier dans la médecine ou dans la bouffe, etc., ont été capturés par des grandes multinationales, faut dire les choses par leur nom, et les outils de contrôle servent maintenant à empêcher les autres de faire des bons produits ou de faire concurrence à ces trucs-là.
Ouais.
Donc là aussi, vous avez le problème de toutes ces agences et NGO à qui on a délégué des pouvoirs de contrôle régaliens,
ouais,
et que personne ne contrôle et qu'on ne peut pas virer. Donc c'est là où ça va être amusant si Musk devient en charge du nettoyage, parce que quand il a pris Twitter, il a quand même viré 70% des gens, et puis personne ne s'est rendu compte de rien du tout. Quoi.
Ouais.
Donc c'est... Et alors il y a deux ou trois personnes autour de Trump qui m'intéressent beaucoup. Il y a Tucker Carlson, qui est le gendre préféré de toutes les Américaines, enfin toutes les dames américaines, qui est l'ancien vedette de Fox, et qui lui, il va gaiement aussi. Vous avez Tulsi Gabbard. Alors Tulsi Gabbard, c'est une femme qui a été dans l'armée, je crois qu'elle était lieutenant-colonel, qui a été fait deux tours en Irak, donc quelqu'un de sérieux. Et alors je peux pas m'empêcher de penser que s'il y avait un gouvernement aux États-Unis avec Trump, Tulsi Gabbard à l'armée, Kennedy et Musk pour nettoyer les écuries d'OGS. Kennedy, j'aimerais qu'on le mette au ministère de la Justice, parce que là aussi, il y a des trucs à nettoyer. Mais si vous aviez Kennedy à la Justice, Musk au nettoyage
de l'administration.
De l'administration, Tulsi Gabbard à la Défense.
Ah, ce serait rigolo.
Ben, ça a quand même plus d'allure que Madame Harris qui peut pas aligner deux mots sans s'en mêler les pinceaux, quoi.
Ouais.
C'est extraordinaire parce que cette femme ne peut pas parler en public.
Oui.
Enfin, mais en privé, j'en sais rien, mais elle dit de la bouillie.
Ouais.
Ça veut rien dire, on lui pose une question, elle vous répond, vous savez, moi, je suis d'une famille de middle class et tout, mais on s'en tape, ma grande.
Oui, oui. En fait, comme elle a une manière de parler qui est vraiment très spéciale, et donc elle est assez facile à imiter. Oui. Et donc il y a énormément de gens, ça c'est sûr que ça a un effet monstrueux sur le vote. Il y a beaucoup de gens sur TikTok, sur Instagram, etc., qui font des vidéos, ils prennent des vidéos d'eux en train d'essayer d'imiter Kamala Harris, et la plupart des gens le font plutôt bien parce que en fait elle est très facile à imiter et on sent à chaque fois sa volonté. Effectivement, elle a cette manière de répondre. On lui pose une question sur n'importe quoi, elle dit, elle commence à dire que
son grand-père qui était noir, ou
voilà,
je sais,
elle commence à dire voilà, j'ai mon beau-père qui est noir, je suis issu d'une famille de la classe moyenne américaine, voilà. Enfin, il y a toujours une volonté d'identification. Et d'ailleurs au final c'est arrivé à un paroxysme aujourd'hui même, parce que elle a proposé un plan pour récupérer l'électorat noir, particulièrement les hommes. Elle a dévoilé son Opportunity Agenda for Black Men, c'est comme ça qu'elle l'appelle, avec 5 mesures dedans. La première, c'est faire 1 million de prêts, des prêts pardonnables, c'est-à-dire que si vous le justifiez, vous pouvez ne pas les rembourser.
C'est bien ça, je peux en avoir un.
Voilà.
Ah non, je peux en avoir un.
Vous pouvez pas, vous n'êtes pas noir.
Je suis pas américain.
Vous n'êtes pas américain.
J'ai accumulé les handicaps.
Donc ça peut aller jusqu'à 20 000 dollars pour créer un business. Elle propose de faire des programmes de mentorat pour des hommes noirs, toujours pour qu'ils accèdent à des postes bien payés. Elle propose de protéger les investissements en crypto-monnaie des hommes noirs.
Alors qu'ils peuvent piler comme des bêtes et ils paieront pas.
Voilà, c'est un peu ça.
Je peux m'inscrire.
Et je sais pas ce que ça veut dire, protéger les investissements en crypto-monnaie, c'est-à-dire que les autres investissements ne sont pas protégés, quoi. Si vous n'êtes pas un homme noir, vous êtes foutu, on peut vous prendre vos
crypto-monnaies. Moi, je serais un homme noir, je me sentirais vraiment blessé en me disant mais j'espère qu'Obama va pas avoir droit à tout ça, parce que
oui.
Déjà si vous voulez, il est le seul président de l'histoire des États-Unis qui fait sa maison de retraite à Washington, alors que tous les autres présidents, et c'est l'autre qui avait fait Washington d'ailleurs lui-même, il s'en allait loin pour pas gêner le suivant. Ouais. Est-ce que là, on peut dire que la présidence Biden, ça a été la troisième présidence Obama,
oui,
quoi. Et donc Obama est en train de se balader partout en disant aux Noirs, il faut que vous votiez pour... Mais les Noirs, ils sont pas très contents, en disant, je veux pas voter pour quelqu'un parce qu'il est noir ou qu'il est blanc, je vais essayer de voter pour quelqu'un qui me paraît compétent et qui va m'aider, quoi. Donc, si vous voulez, vous avez une espèce de... On voit se dévoiler ce que les spécialistes aux États-Unis appellent le programme des démocrates pour maintenir les Noirs dans la plantation.
Ouais.
C'est-à-dire, vous les gardez comme esclaves et ils votent pour vous 4 fois par an, qu'une fois tous les 4 ans, mais il faut quand même vous les entretenez en foutant l'air leur famille, etc.
Ouais. Ça date globalement de Lyndon Johnson.
La destruction de la famille noire par Lyndon Johnson, c'est un des grands succès des démocrates.
Ouais. Ouais. Le quatrième truc qu'elle propose, c'est une initiative de santé pour guérir les maladies qui touchent particulièrement les hommes noirs. Et le dernier, je pense que c'est vraiment le plus drôle, parce que, enfin, on dirait que c'est sorti d'un film. Le dernier, c'est légaliser la marijuana et créer des opportunités pour que les hommes noirs puissent prospérer dans cette nouvelle industrie. C'est-à-dire qu'on fait des mesures pour les hommes noirs. Dernier truc qu'on dit, c'est on va légaliser la marijuana.
Comme ça, vous serez encore plus abruti.
Voilà, on confirme le lien entre hommes noirs et consommation de drogue. Enfin, c'est super pour leur image.
Oui, et ce qu'on dit jamais aussi aux États-Unis, c'est cette histoire d'avortement. En fait, les 90% des avortements aux États-Unis, c'est des femmes noires.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est encore un truc, si vous voulez, on essaye d'empêcher les démocrates, essaye d'empêcher les noirs d'avoir le nombre qu'ils devraient avoir, parce que ça fait 40 ans qu'ils n'augmentent plus en nombre. C'est à cause de c'est à cause. Donc, vous regardez, vous dites, bon, moi je suis un noir, je suis normal, j'ai une famille, si j'ose dire, j'ai des enfants et tout. Et tout ce qu'on me propose, c'est des machins qui sont insultants.
Oui.
Pour moi, en tant que citoyen, si vous voulez, je me sens blessé. On me prend pour un crétin, quoi. Oui. Je suis incapable de mener ma vie.
Il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que les républicains disent bon, voilà, les noirs doivent participer à l'économie pareil que tout le monde.
Ouais.
Voilà, on est tous des citoyens des États-Unis. On n'a pas une société à part pour.
C'est-à-dire qu'ils pour les noirs. Essayent de faire du communautarisme.
Oui, complètement.
C'est comme les gens de gauche, si vous voulez, de dresser les communautés les unes contre les autres, comme ça, à coup de subvention, vous pouvez réussir.
Complètement.
Donc, on sent très bien que d'un côté, il y a un désir d'être, mettons, américain, et de l'autre côté, il y a un désir d'être noir qui est soutenu de façon évidente et noir contre le reste de la société.
Ouais.
Et c'est comme ça, c'est avec des gens comme ça que vous faites des guerres civiles, quoi.
Ouais. Et c'est évident que ça semble être une tentative assez désespérée, donc pour récupérer de l'électorat noir, parce que il semblerait, selon les sondages, que Trump va récupérer. Alors ça reste une minorité, hein, bien sûr, c'est une petite minorité, mais malgré tout, par rapport à d'habitude, Donald Trump devrait avoir le plus de votants noirs en proportion depuis Nixon pour un républicain. Donc ça
et
fait un,
beaucoup
ça fait 50
de latino-américains
ans. Beaucoup de latino-américains
qui
plus
sont
que d'habitude,
pas contents
ouais.
d'avoir vu arriver leurs frères d'Amérique latine parce que du coup leurs salaires se sont ratatinés.
Effectivement, on en parlait la semaine dernière. Et alors je voulais revenir sur Elon Musk parce que à la base je voulais moins parler de l'élection. Enfin, on en reparlera un petit peu après. Mais par rapport plus à Tesla et SpaceX, parce que donc la semaine dernière il avait présenté avec Tesla le bus automatisé et puis le robot. Alors, je sais pas si vous avez regardé Star Wars, mais on dirait une sorte de C-3PO, un petit peu, c'est-à-dire un robot domestique, humanoïde, en quelque sorte, avec, voilà, deux bras, deux jambes. Alors, c'est pas encore idéal, il y a quelques modifications à faire encore avant de vraiment pouvoir le lancer sur le marché, mais enfin, c'est quand même très très prometteur.
Donc, j'avais vu un chien.
Ouais.
Un chien robot qui est assez rigolo.
Ouais.
D'ailleurs, les chiens le regardaient avec une sale tête. Hein.
Ouais. Oui. Alors, il y a Boston Dynamics qui est très fort pour faire.
Ils sont
très forts pour faire ça. Et alors, donc, ils nous proposent ce robot, robot qui serait à 30 000 $, il me semble. Donc, robot domestique. Vous pouvez lui demander, voilà, de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, de vous faire un café, ce genre de choses. Il se balade dans la maison. Il va faire votre linge. Enfin voilà, c'est vraiment un robot domestique. Et alors bon, il y a évidemment beaucoup de parallélismes qui sont faits avec des films, que ce soit Terminator ou le film iRobot avec Will Smith, parce qu'il y a une certaine ressemblance.
Il faut relire Asimov.
Oui.
Ah ben c'était les robots, etc. Asimov, j'ai lu ça. Il en a écrit une dizaine. C'était très bien. J'aimais beaucoup Asimov. Donc vous pouvez lire ça. Mais en effet, donc on. Et là où il y a des robots comme ça qui aident beaucoup, je l'ai vu, c'est au Japon. Alors
ouais,
au Japon, en particulier, ils sont en train de mettre au point toute une série de robots pour aider les gens qui ont des problèmes de mouvement quand ils sont vieux, quoi. Donc
ouais,
on a fait des espaces d'exosquelettes,
ouais.
Vous vous collez dans l'exosquelette et puis vous allez faire vos courses, quoi. C'est lui qui marche à votre place, quoi. C'est assez étonnant, quoi. Donc on voit maintenant arriver toute une série d'aides à la personne.
Ouais. Et puis c'est nécessaire dans une société qui est vieillissante, mais qui ne veut pas forcément accueillir d'immigration, ce qui est le cas du Japon. Parce que évidemment, tous ces métiers-là d'aide à la personne, ces métiers fonctionnels, mais on va dire avec un degré de compétence assez bas, c'est surtout réservé à de l'immigration. C'est pour ça que les démocrates adorent même les immigrés illégaux et qui disent finalement, c'est pour ça que il y a d'une certaine manière un parallélisme. Mais effectivement à faire avec le fait de les garder dans la plantation, c'est comme si quelqu'un face à l'abolition de l'esclavage disait mais maintenant qui va ramasser le coton, et ben maintenant c'est par rapport aux immigrés illégaux, c'est oui mais qui va faire vos livraisons Uber Eats, ou qui va faire justement les services d'aide à la personne, qui va récurer vos toilettes. Il y a finalement exactement cette même idée. Et Elon Musk, il a la réponse, c'est les robots. Voilà, il y a un moment donné, on peut aussi estimer que dans une société très évoluée, ces métiers-là soient considérés comme un peu indignes, de la même manière qu'aujourd'hui on considère comme indigne le fait de ramasser du coton en se cassant le dos. Eh bien, voilà, dans 20 ans, on considérera que les métiers de la personne, c'est pas des humains qui doivent le faire, c'est des robots. Voilà.
C'est très possible. Et à ce moment-là, vous avez la question que pose Jordan Peterson, qui est très intéressante, c'est vous avez dans la population des gens qui ont, mettons, entre 80 et 90 de QI.
Oui.
Et ces gens-là conduisent, sont dans les métiers à la personne, sont dans les livraisons, sont ils sont tout à fait honorables, c'est pas.
Oui, bien sûr.
C'est pas, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient honorables ou pas honorables, parce que les QI sont les mêmes partout. Mais, et donc, ce que dit Peterson, c'est dit, si on va dans cette direction, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui ont entre 80 et 90? Et ça, c'est une question, là, je sais pas trop comment y répondre, hein, ça, c'est.
Ouais. Bah oui, c'est sûr qu'il y a, un certain nombre de métiers, enfin, qui ne seront plus du tout nécessaires à distribuer. J'ai pas vraiment la réponse. Après, il y aura une telle capacité de productivité sans avoir d'être humain que forcément, ne serait-ce
mais on
que.
On pourra avoir aussi des aides à la personne, mais simplement pour la compagnie, par exemple. Ça, c'est pas
possible. Oui, bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai des on leur fera va faire des. Ouais. Non, mais je veux dire par là, c'est que on va vers une société quand même. Où, pour parler crûment, enfin, l'idiot du village, il était content dans son village parce que tout le monde le connaissait. C'est lui qui allait chercher les colis. Enfin, il était gentil, quoi. C'était, ça faisait, il avait un rôle. Donc, ça va poser des problèmes importants sur une partie de la population qui est la plus vulnérable, quoi.
Oui.
Je prends par exemple les métiers de conducteur de camion, etc. Oui. Bon, c'est pas toujours les plus malins, mais parfois ils le sont, mais c'est pas la question. Et le vrai problème, c'est que c'est plusieurs dizaines de millions d'emplois.
Oui, bien sûr.
Et donc vous dites, bon, mais c'est maintenant des robots qu'il faut.
Bah après, j'ai tendance à penser que...
On trouvera autre chose, mais pour l'instant...
On trouvera toujours autre chose et que...
Je suis d'accord, on trouvera autre chose.
Il y a 100 ans, il y avait tout un gars, il y avait tout un, toute une partie de la population qui avait des pelles et des râteaux dans les champs. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et bon, il y a quand même...
Non, tout à fait, on trouvera quelque chose, mais il va y avoir donc d'autres métiers qui vont émerger, qui nécessiteront un humain et non pas une machine.
Ouais. Ça me fait penser. Je crois que c'était Milton Friedman d'ailleurs qui avait cette anecdote. Il demandait à un officiel du régime chinois pourquoi les gens travaillaient avec des pelles et le mec du régime chinois lui disait bah c'est pour faire plus d'emplois. Et Milton Friedman lui répond bah la prochaine fois donnez-leur des cuillères, ça fera encore plus.
Et en effet, tout ça, c'est tout le paradoxe du progrès technique et technologique, c'est que. C'est que on voit assez facilement les types qui vont prendre plein la tête avec ça, et on voit pas encore ceux qui vont
bénéficier.
Et surtout comment ça va organiser.
Oui, c'est sûr, parce qu'on peut se dire forcément ça va créer des emplois, mais ça va surtout créer des emplois qualifiés.
Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, si vous voulez, c'est surtout pas essayer d'empêcher ce mouvement, parce qu'à ce moment-là. Quand la digue cédera, vous aurez une montée inouïe du chômage. Donc, il faut essayer de le faire, de laisser les trucs se faire. Mais parfois, l'économie et les technologies vont plus vite que ce qu'on voudrait. Donc, on a devant nous un vrai problème. C'est comment garder ces gens dans la société de façon à ce qu'ils soient heureux, prospères, etc., qu'ils puissent avoir des familles et tout ça. C'est un des grands problèmes des gens qui arrivent.
Oui. Non, c'est sûr, il peut y avoir quand il y a des révolutions technologiques comme ça, il peut y avoir une sorte de creux, au moins temporaire, où effectivement un tas de gens se retrouvent sans activité parce que bah d'un seul coup leur métier n'est plus nécessaire ou n'est plus effectué par des êtres humains, et donc effectivement il y a une sorte de creux. Après, est-ce que c'est des métiers à vocation? C'est parfois difficile de le dire. Est-ce que c'est humain ou pas de remplacer les caissières par des machines automatisées? J'ai tendance à penser que oui, d'une certaine manière. Voilà, c'est pas personne. Enfin, je connais pas de gens qui
rêvent
de devenir
caissier. Vous n'avez pas besoin de les remplacer. Maintenant, moi, je vois mes enfants aux États-Unis ou au Canada. Ils commandent directement à Amazon et c'est les gars. Plus, ils vont plus dans les hypermarchés, quoi. C'est fini. D'ailleurs, ils ferment tous ces hypermarchés. Ils vont très mal. Ouais. Vous avez le Carrefour du coin qui a ouvert, qui était l'ancienne épicerie d'autrefois, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais maintenant, les grands carrefours, ils ferment les uns pour les autres, quoi. L'hypermarché, c'est un truc des années 60, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a, là-dessus, c'est intéressant parce que j'ai vu une toute petite étude de marché, sur la grande distribution aux États-Unis. Alors, comme vous le savez, dans certains États, les vols ne sont pas, poursuivi.
Oui, ça c'est en Californie,
en dessous de $1000 de vol. Et alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, il y en a qui, par conséquent, mettent tout sous scellé.
Oui.
Et donc ça fait une perte de chiffre d'affaires absolument monstrueuse, parce que imaginez tout ce que vous voulez prendre, le beurre, les steaks, le shampoing, tout est sous-scellé, donc vous devez appeler quelqu'un pour vous ouvrir le truc.
Les clés, oui, j'ai vu ça pour les rasoirs.
Voilà.
Vous savez, les rasoirs pour les hommes, donc ils sont tous sous-scellés.
En général, c'est pas tous les rayons qui sont sous-scellés, mais enfin il y a quelques rayons qui sont ciblés. Donc vous imaginez, c'est hyper fatigant, c'est pas du tout reposant de faire ses courses.
Ou alors vous fermez le magasin.
Ou alors vous fermez le magasin. Il y en a, ce qu'ils font aussi, c'est que ils rajoutent virtuellement $1,000 sur le produit, et ensuite il y a une réduction de $1,000 en caisse.
Ah, c'est pas bête ça.
Donc voilà, vous avez votre beurre, il coûte $3, et ben en fait dans le rayon il coûte $1,003, et puis ensuite vous arrivez en caisse, vous avez une réduction de $1,000, et donc il va vous coûter $3, sauf que si vous partez avec en le volant, et ben vous volez donc plus de $1,000, et donc vous êtes poursuivable.
C'est pas bête ça.
Et donc voilà, il y en a qui font ça, mais le business model qui marche bien aux États-Unis, c'est le modèle Costco, c'est-à-dire vous avez un abonnement pour aller dans le magasin, et donc en fait vous payez, je sais plus combien c'est, je crois que c'est $60 par an, quelque chose comme ça, et donc vous pouvez pas rentrer dans le magasin si vous avez pas votre carte Costco, et en revanche derrière les prix sont beaucoup plus faibles, c'est quasiment à prix coûtant, puisque en fait le magasin se fait de l'argent sur les abonnements et pas tellement sur la marge qui se fond sur les produits, et donc bah il y a, comme vous appartenez en quelque sorte à un club, eh bien il y a beaucoup moins de vols. Voilà. Et donc, on peut acheter les trucs moins chers. Et donc, les Américains raffolent de ça. Aujourd'hui, Costco, c'est le modèle qui marche le mieux.
Moi, je peux vous dire, quand j'étais dans des clubs de tennis où je jouais au tennis, etc., on avait beau être dans un club, dans le vestiaire, il y avait des agents qui piquaient. Hein. il fallait rien laisser.
Hein. Je ne suis pas étonné. Non, mais c'est sûr, c'est plus facile de contrôler quand même ces clients.
C'est évident, c'est évident. Bien sûr.
Et donc pour revenir encore une fois à Elon Musk, donc il y a ça, et puis il y a ce qui est arrivé, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, mais il y a son lanceur de fusée qui est revenu dans le pas de tir.
Oui, j'ai vu ça, il a fait un coup comme le coup de Tintin sur la Lune, il est revenu comme ça en arrière,
et
il s'est posé sur le socle
avec le lanceur, ce qui est absolument fondamental parce que ça réduit les coûts de lancement d'une fusée, enfin de manière drastique, et le lanceur, c'est pas facile de le faire revenir sur Terre parce qu'une navette, c'est petit, ça peut aller encore, mais un lanceur comme celui-là, c'est 70 mètres de haut, c'est la taille d'un immeuble. Vous faites revenir immeuble sur Terre.
J'ai vu les trucs, on voyait le lanceur avec. Ouais. C'est exactement le Tintin sur la Lune, on voyait qu'il revenait comme ça, avec les trucs qui l'empêchaient de tomber. Là,
ouais.
Les gros, c'était vachement bien. Hein.
Et on a besoin de ce genre de lanceur, notamment pour envoyer des hommes sur Mars.
Aujourd'hui, il y a 70% des satellites qui tournent autour de la Terre qui appartiennent à Musk.
Ouais, tout à fait.
C'est étonnant.
Tout à fait, complètement dingue. Il est en concurrence avec, c'est simplement lui contre le reste du monde en termes d'agence spatiale.
Et il l'étane.
Ouais.
Et il en fout une branlée.
Et il y a 10 ans encore, plein de gens disaient non mais c'est complètement fou.
Et puis il y a 10 ans, on avait Ariane qui allait voler, qui partait de je sais pas où, qui goûtait 15 fois le tir chaque fois ce que.
Ouais.
Donc on voit encore. Ce que la merveille du capitalisme, c'est-à-dire les incompétences faire ratatiner par les compétents. Quoi.
Ouais, complètement.
C'est bien.
Complètement. Et je me dis, c'est incroyable aujourd'hui l'importance que peut avoir un seul homme pour nous envoyer dans le futur. Quoi.
Mais c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça, si vous voulez, c'est comme Solzhenitsyn qui disait, parce que les socialistes, les communistes lui disaient, l'histoire a un cours qui est irréversible. Et puis lui, il disait pas du tout. De temps en temps, il y a un caillou qui tombe dans un torrent et qui fait dévier le torrent. Le caillou, en l'occurrence, c'était lui qui a fait dévier le torrent bien en Russie. Et là, Musk, c'était quelqu'un qui est en train de faire dévier la marche vers les États-Unis qu'ils avaient commencé vers le totalitarisme. Je trouve ça au poil, moi. Et vous avez vu, quand il y a eu ces énormes inondations en Caroline du Sud, là, où il s'est passé des trucs abominables, c'est lui qui a été rétablir les communications avec ses satellites, Starlink.
Ouais.
Il a mis des trucs pour que les gens retrouvent le net, puissent repasser des ordres, retéléphoner, etc. Donc on se dit, c'est plutôt mieux qu'un politicien. Quoi.
Ouais, c'est vrai, il a mis dans 3 états américains, il a mis le Wi-Fi gratuit pendant quelques jours.
Ouais, pour que les gens puissent se recontacter.
Ouais. C'est littéralement, enfin, je peux pas le dire autrement, c'est un bienfaiteur de l'humanité, littéralement, quoi.
Comme tous les grands capitalistes.
Ouais.
Qui ont fait baisser les prix de façon extraordinaire, ce qui a permis aux gens pauvres de voir un niveau de vie qui monte. Les inventions, La croissance schumpeterienne, c'est le cœur nucléaire du capitalisme.
Oui, ouais, c'est ce que j'aime le plus, effectivement. Et alors, pour terminer cette émission, je voudrais reparler vite fait de l'élection américaine, même si on a déjà évoqué ce qui se passait. Et puis, on en a plus longuement parlé la semaine dernière aussi, où on faisait une analyse état par état. Et alors, aujourd'hui, alors encore une fois, sur les sondages, tout est assez serré, tout est dans une marge de 1,5 point. Mais... cette fois-ci, Trump est donné gagnant dans tous les États, à l'exception
du Wisconsin,
tout à fait. Mais sinon, oui, Nevada, Arizona, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie, il est donné gagnant, ce qui n'était pas le cas à aucun moment, ni en 2016, ni en 2020.
Non, mais alors ce que j'essaie de dire aux gens, moi je l'ai déjà dit la dernière fois, je vais sans doute leur dire, sûrement d'ailleurs, parce que j'y commence, mais ce qui se passe, c'est que pour moi, quand vous êtes un individu normalement constitué, vous regardez les équipes de Kamala Harris et les équipes de Trump, vous vous dites, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo.
Il ne faut pas déconner. Bon. Et donc, mais comme tous les instituts de sondage, etc., sont détenus par les Bloomberg, qui sont tous de gauche, j'ai été absolument certain qu'on allait lui expliquer jusqu'à 3 semaines avant l'élection que c'était très près, etc., pour pas désespérer Biancourt, vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr.
En même temps, tous ces grands instituts de sondage, ils peuvent pas se permettre, si vraiment il y a un écart monstrueux, ils peuvent le cacher pendant un temps, mais dans les 3 dernières semaines, ils doivent commencer à donner les vrais chiffres.
Ils doivent conserver un peu de sérieux et ils peuvent avoir une marge d'erreur, mais on peut leur pardonner 5 points, on peut difficilement leur pardonner 10 points, quoi. Ça commence à faire beaucoup.
Et donc, j'avais dit dès le départ, donc on va nous expliquer que c'est très... Et puis, arrivé à 3 semaines, on va commencer à voir les écarts se creuser en faveur de Trump.
Bah là, c'est le cas, on y est à trois semaines.
Et à mon avis, ça ne va faire que s'accroître. Quoi. Et alors, à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de penser au désespoir des journalistes français.
Ouais. Ah oui.
Depuis que je les suis, en tout cas sur Trump, ça fait 10 ans qu'ils disent du mal de Trump, quoi.
Ouais.
Et donc, ils vont beaucoup souffrir, les pauvres.
Oui, surtout, ils s'étaient vraiment épris de Kamala Harris. Alors, bon, là, ça risque d'être douloureux.
Mais comment peut-on prendre... Elle est bête comme une noix, quoi. Je veux dire, elle peut pas dire quelque chose sans se mettre à ricaner bêtement.
Oui, oui.
Elle dit des trucs qui sont incompréhensibles. Elle s'est fait choper. Elle avait écrit un livre sur son expérience à la justice. Elle a plagié la moitié des bouquins en allant chercher des trucs qui avaient été écrits par d'autres. Donc vous vous dites mais quand elle s'était présentée aux élections présidentielles la première fois, c'était il y a 4 ans, elle avait fait 1% des voix.
Ouais.
Donc les Américains sont pas dupes. Et quand ils voient quelqu'un d'idiot. Au moins Biden, il avait une longue histoire à Washington, tandis qu'elle, ça a été un désastre du début à la fin, en Californie, partout. Par exemple, elle a mis des tas de gens en tôle parce qu'il y a à cause de la marijuana en Californie.
Aujourd'hui, elle propose de la légaliser.
Mais non seulement ça, aujourd'hui, elle propose de la légaliser, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'après avoir mis tous ces gars en tôle, il y avait un journaliste qui lui avait posé la question, est-ce que vous avez fumé de la marijuana vous-même? Et elle s'était écroulée de rire.
Oui.
Alors qu'elle avait mis des centaines de gens, presque tous des Noirs d'ailleurs, en tôle à cause de ça. Et donc elle fumait de la marijuana, mais d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle est idiote, mais parce qu'il paraît que la marijuana, oui, ça vous fait baisser. C'est comme de mettre sa casquette en arrière, vous savez, ça fait tomber le cuir de 20 points tout de suite. Quoi.
Ça rend pas plus intelligent, non?
Non, ça rend pas plus intelligent. Donc je me dis, mais c'est pas possible qu'ils nous mettent un pantin comme ça.
Ouais.
Ils avaient vraiment d'autres personnes sous la main?
Bah, visiblement, non. Visiblement, c'est tout ce qu'ils avaient.
Ils espéraient arriver jusqu'au poteau final avec Biden, et puis ça n'a pas marché.
Non, ça a lâché en cours de
donc,
route.
Donc, ça va être intéressant les 3 semaines qui viennent, mais...
Ouais, en tout cas, il est très clair désormais que de 2016, 2020 et 2024, c'est à 3 semaines de l'élection, c'est de loin en 2024 que Trump a le plus de chances de gagner.
Absolument.
Et sur les différences, effectivement, entre les sondages et la réalité, le jour du vote, là où il y a le plus de différences, d'habitude, que ce soit... C'était le cas en 2016 et en 2020, c'est surtout dans les états de la Rust Belt...
Ouais, c'est ça.
Donc c'est Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie pour les états clés de cette élection. Et alors déjà que Trump est donné gagnant dans ces états maintenant, même si c'est à une faible marge, en plus de ça, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà à lui rajouter au moins 3 points, sinon 5. Et donc, bah, finalement, là, je vois assez gagnant dans ces trois états. Et si c'est le cas, bah, je pense que c'est gagné. Hein. Je vois pas de scénario.
Tout à fait. Mais la question, c'est est-ce qu'il aura aussi le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. S'il a les trois, là, ça va être un nettoyage d'anthologie.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle.
Ah non, s'il perd une des deux chambres, il est coincé.
Oui, oui. Tout à fait.
Il est coincé.
Tout à fait. Donc il y a ça à surveiller aussi. Parce que voilà. Parfois, tous les votes ne sont pas toujours en.
Non, on a l'équation.
Voilà, tout à fait. Donc voilà ce que je voulais évoquer pendant cette émission.
Merci beaucoup.
C'est comme ça que je conclue, tout simplement. Je vous remercie, bien sûr, pour votre attention, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait.
Et on n'est pas à 500 000, là, vous traînez.
On n'est pas. On est à 350. Non, attendez, il faut qu'on aille à 400 000 d'abord. On est à 350, là.
Non, on est à 450.
On a dépassé les 400 000, je savais même plus.
Moi non plus, je regarde pas trop souvent. Dites-nous.
J'ai oublié, de toute façon c'est écrit pas loin. Donc je vous remercie bien sûr comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion.